L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 8h du matin, ce 15 avril 2010, à Srinagar, capitale du Cachemire indien. Le soleil fait timidement son apparition sur les contreforts de l'Himalaya. Une foule de plusieurs milliers de personnes se pressant en serré. Parmi eux, des Indiens venus de tout le pays, des musulmans, des hindous, des chrétiens et bien d'autres encore. Mais aussi des groupes de touristes, guides du routard ou Lonely Planet à la main. Tous tentent d'entrer dans un modeste bâtiment construit de plein pied. Un homme à la longue barbe et au regard perçant est l'unique gardien. Perché sur un haut tabouret de métal, il reste placide. C'est que notre homme a l'habitude d'être confronté à de grandes foules. Car ce qu'il surveille ici ne serait pas moins que le tombeau du personnage le plus connu à travers le monde. Mais en ce lundi de Pâques, la foule compacte qui se presse aux portes du tombeau sera déçue. Aujourd'hui, et pour la première fois, le site est fermé. Ni les pèlerins, ni les touristes étrangers ne pourront accéder à ce sanctuaire. Leur ferveur croissante pour visiter et se recueillir auprès du tombeau a fini par exaspérer les autorités locales. Il faut dire que, selon une hypothèse, et je le souligne, ce tombeau contiendrait les restes de Jésus le Nazaréen. Oui, vous avez bien entendu, c'est bien du présumé véritable tombeau de Jésus-Christ dont je vous parle ici. Car à Srinagar, une sépulture datant de près de 2000 ans est attribuée, d'après son épitaphe, à un certain Yus Azaf, prophète né d'une vierge en Galilée. C'est ce que l'on raconte ici, au nord-ouest de l'Inde. Et pour les adeptes musulmans du mouvement Ahmadiyya, il s'agit tout simplement de la véritable tombe de Jésus. Et plusieurs historiens indiens, mais aussi européens, confirment cette hypothèse, aussi troublante puisse-t-elle paraître. Une théorie qui, comme vous allez le constater, possède beaucoup d'arguments en sa faveur, même si cela vous paraîtra sans doute polémique, j'en conviens. Alors, le tombeau de Jésus-Christ serait-il situé au pied de l'Himalaya? Jésus aurait-il vécu longtemps au Cachemire indien après sa crucifixion? Cette nouvelle version de l'histoire de Jésus nous permet d'envisager les événements autrement, y compris certains passages des évangiles. Comme vous allez le comprendre dans le récit qui suit, les mystères qui planent autour de la personnalité de Jésus-Christ n'ont pas fini de faire couler de l'encre. L'idée selon laquelle le sanctuaire nommé Rosabal, au cœur du Cachemire indien, abriterait en fait le tombeau du Christ n'est pas nouvelle. Cela fait plus de 100 ans que cette théorie a été développée. Dans cette région himalayenne, à majorité musulmane, la plupart des habitants sont persuadés que Jésus aurait vécu longtemps ici et qu'il y serait mort à un âge canonique. Mais tout d'abord, il est utile de se remémorer que, pour les chrétiens, le tombeau officiel de Jésus-Christ se trouve dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, bien sûr. Cependant, le jour où les archéologues ont été autorisés à ouvrir ce tombeau officiel, ils savaient pertinemment qu'ils n'y découvriraient aucun squelette. Selon la tradition, le marbre ne protège que le lit funéraire du Christ, où il aurait été déposé après sa crucifixion. Son corps est à chercher ailleurs, dans un au-delà, puisqu'il est ressuscité, puis monté au ciel. Il est historiquement avéré que Jésus le Nazaréen a véritablement existé et que durant environ une année, peut-être trois, il a voyagé à travers la Palestine, faisant de nombreux adeptes. Il enseignait aux foules des préceptes considérés comme marginaux, voire révolutionnaires, par rapport à la pensée dominante de l'époque. Par contre, le concept de résurrection n'est appuyé par aucune preuve scientifique. Les adeptes du christianisme diront qu'elle relève du domaine de la foi. Mais pour le mouvement musulman Ahmadiyya, rassemblant tout de même plus de 20 millions d'adeptes à travers le monde, Jésus ne serait pas mort sur la croix. C'est dans un état de coma profond, qui aurait duré 3 jours, qu'il aurait été décroché puis soigné par son ami médecin Joseph d'Arimathie. Cela coïncide en partie avec le récit des évangiles, car ensuite, après avoir salué ses disciples, Jésus aurait pris le chemin de Damas, accompagné de sa mère et de quelques proches. Parmi eux, Marie-Madeleine, mais aussi l'apôtre Thomas, dont on sait qu'il a évangélisé l'Inde au 1er siècle de notre ère. Puis, Jésus poursuit son voyage. Il longe la mer Morte, où l'on retrouvera les fameux manuscrits qui attestent de son passage par cette région. Ensuite, les hypothèses diffèrent selon les historiens. Soit le voyage de Jésus et de ses proches se poursuive via les actuels Irak, Iran et Afghanistan. Il faut s'imaginer qu'il y a 2000 ans, ce genre de voyage à pied, ou sans doute par moments à dos de mule ou de chameau, durait plus de 6 mois. Jésus aurait alors suivi principalement les routes empruntées par les caravanes de marchands. Les échanges commerciaux étaient déjà courants entre les Indes et le Proche-Orient. De même que les échanges de savoir, d'ailleurs. Autre hypothèse, plus en phase avec le récit du Nouveau Testament, celle où Jésus rencontre Saül, qui deviendra plus tard Saint Paul. Celui-ci est convaincu que c'est bien Jésus, pourtant crucifié, qui est en face de lui. Saül sait quel sort tragique attend Jésus s'il est à nouveau capturé. A-t-il voulu le protéger ? Cela expliquerait le mystérieux voyage entrepris immédiatement par Saül vers l'Arabie et la mer Rouge, d'où partaient régulièrement des navires en direction de l'Inde. Les liaisons maritimes vers l'Inde étaient déjà bien implantées. On y transportait déjà soie et autres biens précieux. Saül va ensuite répandre la nouvelle selon laquelle Jésus a maintenant véritablement disparu, qu'il est monté au ciel, ce qui deviendra, pour les chrétiens, la fête de l'Ascension. Cela aurait surtout permis que l'on oublie Jésus et qu'il puisse fuir. La nouvelle de l'ascension de Jésus, le dérobant aux yeux de tous, découragera toute poursuite. Et aujourd'hui, des millions de personnes vénèrent encore la dépouille mortelle de Jésus au Cachemire. Mais l'histoire du lien entre Jésus et les Indes est loin d'être terminée. On pourrait se demander pourquoi Jésus se rend jusqu'aux Indes. N'aurait-il pas pu s'établir à mi-chemin, en Perse par exemple, ou fuir vers l'ouest, c'est-à-dire en Égypte ? Alors pourquoi les Indes ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agirait en réalité du second voyage de Jésus au nord de l'Inde. Comme l'explique entre autres le théologien et historien Éric de Broqueville, Jésus aurait séjourné en Inde durant une douzaine d'années, entre ses 18 et ses 30 ans. Période dont les évangiles ne parlent pas. Car où était Jésus durant les années manquant à sa biographie ? Diverses raisons permettent de penser qu'il aurait pu notamment aller en Inde. Pourquoi ? Était-il en quête des sources de sa religion ? La vie de Jésus nous est essentiellement connue par les évangiles. Encore ne livre-t-il que son enfance et sa vie dite publique. L'évangile de Matthieu fait disparaître Jésus, juste après sa naissance, en direction de l'Égypte. Celui de Luc perd Jésus de vue à 12 ans, en route vers Nazareth, dont l'archéologie peine à soutenir l'existence à cette époque. Les évangiles retrouvent Jésus à l'âge de 30 ans, pour une vie publique d'une durée d'environ 1 an. Mais d'après saint Jean, cette vie publique dure 3 ans et Jésus serait plutôt proche de la cinquantaine. Bref, chaque évangile possède déjà sa propre version. Sans tenir compte des évangiles non reconnus par le Vatican, ceux que l'on nomme évangiles apocryphes. Avant de suivre les pas de Jean-Baptiste, Jésus aurait-il fortifié sa foi auprès des sages de l'Inde ? Si tel fut le cas, nous devrions retrouver dans son enseignement la marque profonde de cette ancienne spiritualité orientale. À la naissance de Jésus, les mages en adoration devant le nouveau-né évoquent déjà l'Orient et les religions perses et indiennes. Vient ensuite une légende qu'il faut rectifier. Le roi Hérode n'a jamais fait massacrer les jeunes enfants de Judée. L'épisode du massacre des innocents est emprunté au conte indien illustrant la naissance et la vie de Krishna, incarnation en Inde de Dieu sur terre. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que l'épopée de Krishna, relatée dans le livre sacré de la Bhagavad Gita, dévoile entre autres les mystères de plusieurs concepts fondamentaux du christianisme, tels l'Immaculée Conception ou la résurrection. Ces dogmes chrétiens sont des hérésies aux yeux des mouvances du judaïsme de l'époque, surtout les plus radicales d'entre elles, qui voient ces concepts venus de l'Orient comme inacceptables. Attardons-nous encore un instant sur ce présumé premier long voyage de Jésus aux Indes lorsqu'il est âgé d'une vingtaine d'années. Tout le monde s'accorde à dire que les enseignements de Jésus sont nouveaux pour l'époque. Ils sont déroutants, parfois révolutionnaires. C'est d'ailleurs ce qui lui valut la colère de la religion dominante de son temps, à savoir le judaïsme, et plus particulièrement de certains groupes religieux comme les pharisiens. « Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité », disait-on à l'écoute de Jésus. Car avant tout, Jésus parle en parabole. Les paraboles sont de petites histoires imagées et métaphoriques, utilisées pour mieux faire comprendre un enseignement. Ce langage des paraboles est caractéristique de la spiritualité indienne, particulièrement des Upanishads. Le message de Jésus est censé se centrer sur le royaume de Dieu. Or, ce thème est primordial dans les Upanishads. Il s'agit d'un royaume intérieur, une spiritualité centrée sur le divin qu'il y a en chacun de nous. Donc, résumons. Jésus aurait vécu au moins une douzaine d'années en Inde. On lui aurait enseigné des messages proches de ceux de Krishna, incarnation indienne de Dieu sur terre, notamment le concept de royaume de Dieu. Mais aussi la manière de transmettre ces enseignements au plus grand nombre, sous forme de paraboles. D'ailleurs, bon nombre des paraboles de l'Évangile se trouvent quasi telles quelles dans les Upanishads indiens. La parabole dite du semeur, que l'on trouve dans l'Évangile de Marc, peut sembler être une traduction reprise presque mot à mot de cette même parabole des Upanishads. Durant cette longue période en Inde de 12 ou 15 années, Jésus aurait suivi des enseignements yogis. Il aurait entraîné son corps et son esprit à vivre des situations extrêmes. Comme il le fit d'ailleurs à son retour en Palestine, en jeûnant 40 jours dans le désert, puis en s'initiant auprès du mystique essénien Jean, dit le Baptiste. Ce sont ces entraînements, cette discipline acquise en Inde qui l'aurait aidé à survivre à la crucifixion. Laissé pour mort par les Romains après 6 heures de supplice et emporté dans son tombeau par son ami médecin, Joseph d'Arimathie, Jésus n'était en réalité pas encore mort, mais plongé dans un coma profond. Ensuite, comme le relatent les évangiles, il confie la mission à plusieurs de ses disciples, mais aussi à de nouveaux adeptes tels Saül, qui deviendra Saint Paul, de transmettre ses enseignements dans différentes régions du monde. Quant à Jésus, ne pouvant vivre caché, il décide de repartir au Cachemire, terre d'érudition. Ce serait alors, à en croire cette théorie, son second voyage vers les Indes. Mais revenons 2000 ans plus tard, c'est-à-dire en ce matin de l'an 2010, à Srinagar, au Cachemire. Malgré l'heure matinale, il fait déjà une chaleur étouffante en ce début de printemps 2010. Pour la première fois, les portes du sanctuaire de Rosabal, qui abrite le tombeau de Yuz Azaf, considéré comme Jésus-Christ lui-même, sont fermées. La foule a fini par se disperser et les touristes sont déçus. Les pèlerins tentent d'implorer le gardien du tombeau, mais non, rien n'y fait. Les autorités locales veulent se laisser le temps de réfléchir, car le succès grandissant du lieu ne doit pas ternir l'image de la ville et la tranquillité de ses habitants. Car quel sort donner à ce modeste bâtiment rectangulaire, piètrement entretenu, situé au coin d'une ruelle miséreuse de la vieille ville? Faut-il le rénover ? Le transformer en haut lieu de pèlerinage et de tourisme? Ne serait-ce pas un affront fait à l'Église catholique que de légitimer la présence du tombeau du Christ en Inde? Imaginez ce petit temple sans grande allure. Quatre murs en briques effrités par le temps, percés de grandes fenêtres en bois. Ah, il est très différent de la démesure de l'église du Saint-Sépulcre, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce Rosabal ou tombeau du prophète est coiffé d'un toit et d'un clocheton de bois peint en vert, couleur de l'islam. À l'intérieur, on aperçoit depuis une galerie vitrée un double mausolée recouvert d'un épais tissu brodé. La véritable chambre funéraire se trouverait au sous-sol. L'une des sépultures est celle d'un certain Nasruddin Rizvi, saint soufi du XVe siècle et, dit-on, grand admirateur de Jésus. L'autre tombe est réputée beaucoup, beaucoup plus ancienne. Selon la tradition connue de tous ici, c'est Yuz Azaf qui y repose. Et il s'agirait précisément de quelque mystérieux prince étranger inspiré de Dieu, un grand guérisseur, chercheur de vérité. Voilà ce que l'on raconte depuis près de 2000 ans. On appelle aussi ce sanctuaire la tombe sacrée du Cachemire. Seulement, comme la plupart des habitants de la région sont musulmans, ils sont persuadés que l'homme qui gît là, sous le nom de Yuz Azaf, est un prophète de leur religion. Le directeur des musées et des antiquités pour l'État du Jammu-Cachemire confirme que ce Yuz, signifiant Jésus dans la langue du pays, pouvait être le Christ. Lui-même avait mené de longues recherches semblant confirmer cette folle hypothèse. Mais la tombe en bois reste inaccessible, cachée des regards. Le vieux gardien du sanctuaire fait signe aux touristes, insistant qu'il est impossible de pénétrer dans le mausolée. Néanmoins, dans un coin, ceux-ci peuvent distinguer une pierre noire posée au sol sur laquelle sont gravées deux empreintes de pied avec des creux à l'emplacement des talons. C'est ce même professeur qui les avait découvertes quelques années auparavant après avoir nettoyé la pierre recouverte de cire de bougie. Il les décrivit comme les pieds d'un crucifié. Une croix en bois est maintenant accrochée sur l'une des parois. Ultérieurement, ce fameux professeur expliqua avoir découvert que le bâtiment ne date que de quelques siècles. L'édifice primitif en pierre est bien situé juste en dessous, au sous-sol donc. C'est là que reposerait depuis 20 siècles le corps de Yuz Azaf, celui qu'on dit être Jésus. Mais il n'avait pas reçu l'autorisation de poursuivre plus en avant ses investigations. Plus récemment, des enquêteurs scandinaves avaient tenté d'y introduire une caméra miniature sans plus de succès. Depuis, toute demande de fouille est immédiatement rejetée par les autorités musulmanes sunnites qui verraient d'un très mauvais œil l'idée d'honorer depuis des siècles la tombe d'un juif fondateur de l'Église catholique. Le gardien est maintenant seul à veiller sur la tombe. Les derniers badauds ont quitté les lieux. Un vent chaud se lève et fait voler des volutes de poussière sur le jour qui prend fin. Provenant de la ville, on entend les appels à la prière et les roues des chariots des marchands ambulants qui s'éloignent. Les échoppes du marché ferment les unes après les autres. C'est que la nuit tombe rapidement, lorsque le soleil se cache derrière la montagne. Dans quelques jours peut-être, les visiteurs pourront à nouveau se rendre auprès de la tombe de Yuz Azaf, dit Jésus-Christ.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Je vous raconte aujourd'hui dans l'heure H l'énigmatique histoire du tombeau de Jésus-Christ qui serait situé au Cachemire indien et qui, sous bien des égards, ne semble pas une hypothèse aussi saugrenue qu'elle n'y paraît. Depuis un siècle environ, des études historiques et scientifiques tendent à démontrer le lien avéré entre Jésus et le nord de l'Inde. Une région où il aurait appris de nombreux enseignements qu'il aurait ensuite transmis lors de sa vie dite publique en Palestine, mais aussi une région où il serait retourné après sa mort présumée. Le tombeau de Yuz Azaf, situé à Srinagar, au Cachemire, serait bien celui de Jésus. Cette histoire de tombeau du Christ, situé au Cachemire indien, est en réalité moins invraisemblable qu'elle n'y paraît. Car la route de la soie existait. Le commerce entre la Méditerranée était vivace et la religion chrétienne s'est propagée rapidement jusqu'en Inde, notamment via l'apôtre Thomas et ses disciples. Différentes églises, issues de cette évangélisation précoce, existent encore actuellement en Inde, jusqu'au Kerala, dans le sud du pays. Et puis, les nombreux historiens qui affirment que le Christ serait parti en Inde durant son adolescence expliqueraient simplement pourquoi son enseignement est teinté de bouddhisme. Pourquoi des paraboles entières et des concepts précis utilisés par Jésus lors de sa vie dite « publique » semblent être des copies conformes des enseignements véhiculés par la mystique hindoue et bouddhiste de l'époque. Bien entendu, on peut aussi penser que Jésus aurait pu apprendre ses enseignements en Palestine, éventuellement dans l'Égypte voisine, donc sans pour autant voyager jusqu'en Inde. On sait effectivement que Jésus faisait partie du groupe des Nazaréens. Les archéologues ont prouvé depuis longtemps que la ville de Nazareth n'existait pas encore à cette époque. Ce terme de Nazaréen fait bien allusion à ce groupe ascétique qui aurait eu connaissance des enseignements, notamment du prophète perse Zoroastre, mais sans doute aussi de l'épopée de Krishna. La dernière étape de cette longue période d'ascétisme fut peut-être les 40 jours dans le désert que relatent les évangiles avant que Jésus ne soit baptisé dans le fleuve Jourdain par un autre Nazaréen, Jean, dit le Baptiste. Vous l'avez compris, le mystère reste entier. Et c'est bien cela qui rend cette histoire passionnante. En tout cas, les livres d'histoire indienne ont le mérite d'ajouter la pièce manquante au puzzle de la vie de Jésus. Même les registres et les écrits romains ne la mentionnent pas. Alors, cette hypothèse d'un Jésus qui sera allé étudier en Inde durant sa jeunesse ne serait pas si farfelue. Il y aurait fréquenté des brahmanes, des jains et des bouddhistes. Il aurait appris la médecine et développé ses compétences yogiques. Puis il serait revenu enseigner sa nouvelle religion vers l'âge de 30 ans sur sa terre natale, la Palestine. Laissé pour mort, puis sorti du commun, il serait ensuite, toujours selon ses hypothèses, naturellement retourné aux Indes pour fuir certaines factions du judaïsme qui le persécutaient, le considérant comme hérétique. Il aurait même atteint l'âge avancé de 100 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater que son tombeau présumé au Cachemire est connu et respecté à la fois des bouddhistes, des hindous, des musulmans et des chrétiens. Donc si l'on poursuit notre théorie hypothétique, Jésus ne serait pas mort sur la croix, mais aurait plongé dans un coma profond. La crucifixion est en effet un supplice atroce où on finit par tomber inconscient suite à des difficultés respiratoires et cardiaques. Cet état d'inconscience mène alors au coma, puis à la mort. Si elle est interrompue au bout de 6 heures, comme ce fut le cas pour Jésus, ce que rapporte l'évangile de Luc, Jésus n'était peut-être pas mort, mais plongé dans le coma quand il fut descendu de la croix. C'est peu probable, mais c'est loin d'être impossible. Soigné par son ami médecin, il aurait entrepris un long voyage et aurait finalement vécu longtemps au Cachemire indien avec quelques proches, où il serait mort et enterré sous le nom de Yus Azaf, son nom en langue perse. Les traces de ces théories se retrouvent dans de nombreuses traditions, tant hindoues, perses, musulmanes et même chrétiennes. Mais avant de revenir sur d'autres détails troublants de la présence de ce tombeau au pied de l'Himalaya, il faut que je vous parle d'un autre personnage clé dans cette histoire, un certain Nicolas Notovitch. Nicolas Notovitch faisait un reportage en 1887 dans la région himalayenne du Ladakh. À la suite d'une chute de cheval, il fut recueilli par des lamas du monastère bouddhiste de Emis. C'était alors le plus grand et le plus riche monastère du Ladakh et le siège principal du bouddhisme tibétain. Nicolas Notovitch avait entendu parler des manuscrits relatant la vie d'un certain Issa, pouvant être identifié à Jésus. Il demanda au lama s'il possédait ce genre de manuscrit. Le grand lama, d'abord réticent, se laissa séduire par Notovitch, qui lui offrit notamment son réveil matin et sa montre. Du moins, c'est ce que l'on raconte. Le grand lama fit alors apporter 2 grands livres. Il s'agissait d'un texte en tibétain, traduction d'un original plus ancien écrit en pali. Nicolas Notovitch notait dans son journal la traduction que lui en faisait un interprète au fur et à mesure de la lecture par le grand lama. de retour en Europe avant de révéler quoi que ce soit. Nicolas Notovitch prit soin de prendre le conseil d'un cardinal de Rome qui lui déclara que ce document n'était pas une nouveauté pour l'Église, ajoutant que la bibliothèque du Vatican possède divers écrits, pas moins d'une soixantaine, sur ce sujet, dans diverses langues orientales, qui ont été rapportées principalement de l'Inde par des missionnaires. À Paris, Nicolas Notovitch rencontra alors le cardinal Luigi Rotelli, qui lui déclara que la publication de ce texte serait prématurée. Il valait mieux attendre pour ce genre de révélation. Notovitch finira par publier en 1890 un livre, évidemment rapidement décrié, d'autant plus que l'homme n'est pas historien mais journaliste. Ce livre serait donc la traduction des manuscrits du monastère de Émis. En 1894, il fut publié en français et intitulé « La vie inconnue de Jésus-Christ ». Près de 50 années plus tard, en 1939, le bibliothécaire de ce même temple de Émis au Ladakh montra trois livres à une certaine Elisabeth Kaspari, en lui expliquant « Ces livres disent que votre Jésus est venu ici ». Elisabeth est une pianiste suisse très renommée à l'époque. Elle n'est pas au courant des légendes au sujet d'Issa ou du livre de Notovitch. Des photos prises par Elisabeth Kaspari elle-même attestent de ces manuscrits écrits effectivement en langue pali. La pianiste, personne influente et par ailleurs proche de la célèbre pédagogue Montessori, popularisera dans une Europe pourtant encore très catholique la théorie selon laquelle Jésus aurait vécu dans cette région de l'Himalaya durant sa jeunesse. Et bon nombre de textes à ce sujet seraient discrètement conservés au Vatican. Finalement, il ne s'agirait alors que d'un évangile apocryphe parmi d'autres. Contrairement aux quatre évangiles dits canoniques et enseignés dans les églises, les évangiles apocryphes apportent souvent d'autres éclairages sur la vie de Jésus et ont parfois été écrits par des disciples ayant connu directement Jésus, comme Thomas, pour ne citer que lui. Selon cet évangile apocryphe tibétain, découvert en 1887, Jésus est arrivé en Inde à l'âge de 14 ans, y a suivi l'enseignement des brahmanes et des bouddhistes et a étudié leurs textes sacrés, prêché durant 6 années, puis s'en est retourné en Palestine via la Perse à l'âge de 29 ans. Dans ce texte, il est dit aussi que Jésus aurait été initié durant plusieurs années à la méditation et à la guérison par imposition des mains par les yogis et prêtres bouddhistes de l'Inde et du Népal. Ceci pourrait expliquer ce qu'il accomplit à son retour en Palestine et particulièrement certains miracles qui lui sont attribués dans la religion chrétienne.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'énigmatique histoire du tombeau de Jésus-Christ situé au Cachemire indien et qui, sous bien des égards, ne semble pas une hypothèse aussi extravagante qu'elle n'y paraît. Depuis un siècle environ, des études historiques et scientifiques tentent à démontrer le lien avéré entre Jésus et le nord de l'Inde. Une région où il aurait appris de nombreux enseignements qu'il aurait ensuite transmis lors de sa vie dite publique en Palestine. Mais aussi une région où il serait retourné après sa mort présumée. Le tombeau de Yuz Azav, situé à Srinagar, au Cachemire, serait celui de Jésus. Les premiers chrétiens finissent par survivre aux persécutions pour, au fil des siècles, unifier leurs croyances et finalement fonder une religion. Les mythes de la résurrection et de l'ascension perdurent à travers les siècles et sont encore communément admis par la plupart des chrétiens à travers le monde. Les autres religions ont sans doute plus de facilité à admettre que Jésus n'est pas mort sur la croix, comme l'atteste par exemple la croyance relativement partagée dans l'islam que Jésus n'est pas mort crucifié. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, dit la sourate 4157 du Coran. Le faux-semblant fait plutôt penser à un double, un sosie, un frère. Ce sont là d'autres théories encore, celles de la substitution. Mais le Coran insiste surtout sur le fait qu'il n'est pas admissible que Dieu laisse ainsi périr Jésus. Qui plus est, de l'une des manières les plus humiliantes et atroces, la crucifixion. À la fin des années 30, l'imam de la Grande Mosquée de Londres publie également un livre sur le sujet dont le titre est sans équivoque, « La tombe de Jésus en Inde ». Mais revenons à l'Église chrétienne. Comme je vous l'ai expliqué, le Vatican ne semble pas plus étonné que cela lorsque Nicolas Notovitch relate ce qu'il a entendu au Ladakh. Des dizaines de manuscrits farouchement gardés au Vatican mentionneraient de telles théories. Il est par exemple notoire chez certains moines chrétiens de Cilicie, région actuellement située en Turquie, que Jésus n'est pas mort sur la croix. Soigné après la crucifixion par Joseph d'Arimathie, il est parti avec Thomas et sa famille vers l'Inde. Les moines ciliciens ont construit des églises tout au long de sa route. Dans leur livre, il est question de la tombe de Jésus à Srinagar, mais aussi de celle de Marie, la mère de Jésus, au Pakistan. Comme je l'ai mentionné au début, le groupe religieux qui va le plus contribuer à consolider cette théorie des voyages de Jésus-Christ dans le nord de l'Inde et la présence de sa tombe au Cachemire sont sans conteste les Ahmadis. Les Ahmadis comptent encore actuellement environ 20 millions d'adeptes. Au Pakistan, en Inde, mais aussi dans différents pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La plus grande communauté étant celle du Niger. Les Ahmadis sont une religion fondée dans les Indes britanniques, à la fin du XIXe siècle, par Ghulam Ahmad. Il a composé une tradition nouvelle en reprenant diverses traditions et récits, notamment autour du personnage qui nous intéresse aujourd'hui, ce fameux Yuz Azaf, le nom perse de Jésus. Yuz Azaf existe chez certains musulmans et aussi chez des hindouistes du Pakistan et du Cachemire. On en retrouve dans de nombreux textes sanscrits. Il existe donc un véritable culte à Yuz Azaf alias Jésus. Selon eux, Jésus est un prophète de Dieu qui aurait été déposé de la croix en état de coma avancé et qui aurait fait croire à sa mort pour échapper à ses bourreaux. Après quelques apparitions à ses disciples pour mettre en place sa prédication, il serait venu vivre la plupart du temps de l'autre côté du fleuve Euphrate, qui n'était pas sous le contrôle des Romains. Il se serait beaucoup déplacé, ce qui l'aurait finalement conduit à Srinagar. Selon Ghulam Ahmad, toutes ces régions auraient conservé dans leur tradition le souvenir de son passage, et il juge cet itinéraire logique, car Jésus cherchait, toujours d'après Ahmad, à rassembler les tribus perdues d'Israël. Dans les sources indiennes, Jésus est d'ailleurs décrit comme un grand voyageur. Il aurait fini sa vie au Cachemire à l'âge symbolique de 120 ans. Ahmad explique ensuite que Jésus aurait été enterré à Srinagar sous une imposante pierre tombale. Le bâtiment contient une deuxième sépulture, celle d'un saint musulman soufi du XVe siècle, grand admirateur de Jésus, et qui aurait demandé à être inhumé à côté de sa tombe. C'est à cette occasion que le bâtiment a été construit sur le lieu de la tombe du prophète Yuz Azaf. Pour assurer cette croyance, le mouvement ahmadiste s'appuie aussi sur des textes mentionnant Jésus et rédigés en arabe, en farsi, en sanskrit. Et notamment cet épisode que plusieurs livres d'histoire indiens mentionnent, celui où Jésus rencontre le roi Shalivahana à Srinagar. Dans le dialogue, Jésus dit au roi qu'il vient de la Palestine, où il était considéré comme le Messie. Alors vous l'aurez compris, dans la plupart des traditions, des écrits contiennent des révélations sur le, peut-être les voyages de Jésus dans la région himalayenne. Des textes musulmans, perses, bouddhistes, hindous et même chrétiens. Tout cela demeure mystérieux, vous ne trouvez pas? On peut penser que cela fait partie du mythe, mais finalement, il n'y a pas plus de preuves dans la tradition de l'Église de la résurrection de Jésus après 3 jours et de l'ascension après 40 jours que celle d'un Jésus tombé dans le coma et qui s'enfuit ensuite vers l'Est. Et pourquoi les millions d'adeptes ahmadis auraient absolument tort? Et si Jésus avait véritablement vécu au Cachemire? On ne le saura sans doute jamais de manière certaine. Et pourtant, toujours au Cachemire, et aussi étrange que cela puisse paraître, un certain Bacharat Salem, est certain d'être le descendant de Jésus-Christ. Rien que cela. Ouais. L'individu ne prétend à rien d'extraordinaire. Il se décrit lui-même comme un simple et honnête homme. Mais il tient pour preuve une généalogie très précise, des registres savamment tenus à travers les siècles. Mais voilà, en tant que bon musulman, le brave Bacharat Salem ne peut revendiquer qu'à demi-mot ce glorieux ancêtre. Il y a quelques années, il s'explique à un journaliste du magazine français Le Point. « De tout temps, on est venu du monde entier voir mon père et moi pour nous interroger. La plupart de ces visiteurs sont repartis avec la conviction profonde que le Christ repose bien ici. » Mais il ne peut y avoir des fouilles archéologiques sur le site, car autant le clergé musulman sunnite et chiite, mais plus encore, le clergé Ahmadi refuse toute ouverture du tombeau, ce qui serait considéré comme une violation de sépulture. Quant aux revendications de Nicolas Novotovic, elles font toujours débat. D'une part, elles ont été rejetées dans les années 80 par certains universitaires qui ont examiné et rejeté son témoignage. D'autre part, elles ont été confirmées en 1997 par certains chercheurs comme le professeur d'histoire des religions Holger Kersten. De nos jours, il serait tout à fait possible d'analyser les ossements de Yuz Azaf et d'en tirer les traces ADN, tout comme de dater l'inhumation du squelette. Si de l'ADN était retrouvé, il serait même possible d'émettre des hypothèses sur les origines du défunt inhumé en ce lieu. Viendrait-il comme Jésus du Proche-Orient ? Mais il y a un refus catégorique des autorités religieuses ahmadies qui refusent l'ouverture de la tombe, comme on l'a dit. Les autres groupes religieux, comme les musulmans et les chrétiens, même s'ils sont sceptiques sur le fait que ce soit Jésus qui est inhumé en ce tombeau, sont eux aussi opposés à ce que la sépulture soit ouverte, ou plutôt profanée. L'État indien séculier est lui aussi attaché à ce que l'intégrité du tombeau soit préservée pour respecter les croyances religieuses des Ahmadis, qui sont reconnus comme un groupe religieux en Inde. Pour ce qui concerne les musulmans sunnites, même s'ils rejettent les préceptes des Ahmadis, ils considèrent en grand nombre que cette tombe est celle d'un dignitaire étranger important qui peut-être aurait connu le Christ. Certains estiment qu'il s'agit ici de la tombe de l'un des 12 apôtres, sans doute Thomas, ce qui est aussi largement partagé par certains chrétiens locaux. En attendant, le Saint-Sépulcre de Jérusalem est toujours vide et la famille qui garde le tombeau de Yuz Azaf à Srinagar, au Cachemire, ne remercie pas Lonely Planet et le guide Duroutar d'avoir mentionné sa présence. Les archéologues du monde entier qui rêvent d'ouvrir le tombeau sont quant à eux conscients que toute fouille est inenvisageable. Du moins, à l'heure où je vous raconte cette histoire. Car qui sait si l'avenir ne nous réserve pas encore des surprises sur la vie de Jésus, ses présumés voyages en Inde et le tombeau qui abriterait sa dépouille dans un petit sanctuaire bien gardé du Cachemire indien. Voilà pour cette histoire du tombeau du Christ qui soulève beaucoup de questions, vous en conviendrez. Histoire écrite en collaboration avec Gaëtan Saint-Rémy. Allez, à très vite sur La Première.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.